VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 19h30 GMT. Nous sommes mardi 18 avril 2017 au sommaire. Un nouveau chef coutumier dans le Kasaï pour remplacer Kamwina Sapu, sa mort en août dernier avait provoqué des violences meurtrières dans le centre de la République démocratique du Congo. Double attaque dans le nord malien, bilan 5 morts dont 4 soldats. VOA Afrique vous plonge au cœur des repentis de Boko Haram au Niger.
J'ai quitté Boko Haram parce qu'il y avait des dissensions. Le groupe de Shekau et celui de Mamanou se sont battus 6 fois.
En Grande-Bretagne, Theresa May, chef du gouvernement, appelle à des législatives anticipées. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, désignation dans le Kasaï d'un nouveau chef coutumier pour succéder à Kamwina Sapu. L'assassinat du chef traditionnel a été à l'origine des violences dans la région. Le point avec Eddie Sango.
Jacques Kabeya Ntumba succède donc à Pierre Mpadi, dont le nom de règne était Kamwina Sapu, nom également attribué à la milice qui se bat depuis que son leader a été assassiné en août dernier par les forces de l'ordre. La désignation du nouveau chef coutumier, Deba Gila Kasanga, intervient 3 jours après la remise de la dépouille de Kamwina Sapu à sa famille, comme l'exigeait entre autres la milice. Il a été enterré dans son village. Un porte-parole de la famille régnante a déclaré solennellement la fin de la guerre contre les gouvernements à la télévision d'État. Un calme précaire a été observé à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, mais des tirs ont été entendus hier dans la périphérie de la ville.
En restant RDC, où le gouverneur de la province du Haut-Katanga a été destitué ce mardi, provoquant la colère de l'opposition qui accuse le pouvoir de multiplier les manœuvres pour retarder l'organisation des élections. Lors du vote d'une motion de censure à l'Assemblée provinciale à Lubumbashi, 24 députés présents ont voté à l'unanimité pour la destitution du gouverneur Jean-Claude Kazembe pour mauvaise gestion. Le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce la multiplication d'incidents dans lesquels les Imbonerakure, la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir au Burundi, appellent au viol d'opposantes. Zaïd Rad Al-Hussein les qualifie de slogans choquants qui sont profondément inquiétants. Après la publication d'une vidéo, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, avait réagi en indiquant que les chants en question ne concordaient ni avec les mœurs, ni avec l'idéologie du parti. Double attaque perpétrée contre les forces maliennes à Rarou, dans la région de Tombouctou, et les casques bleus de la MINUSMA à Tessalit. Le représentant de l'ONU au Mali a condamné fermement ces attaques qu'il qualifie de lâches. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Tôt ce matin, des hommes armés non identifiés ont attaqué le camp militaire des Fomans et de la garde nationale à Rarou, situé à 120 km à l'est de Tombouctou, sur la rive droite du fleuve Niger. Le bilan fait état de 5 tués, dont 4 soldats maliens et une fillette, 3 véhicules militaires brûlés et plusieurs blessés. Les populations effrayées sont restées toute la matinée terrées chez elles. La MINUSMA a déployé des hélicoptères d'attaque en appui aux forces maliennes pour faciliter l'évacuation médicale des blessés par voie aérienne. À Tessalit, toujours ce matin, à 30 km au sud de la ville, 3 personnes, dont 2 casques bleus et un civil, ont été grièvement blessées par l'explosion d'un engin improvisé au passage d'un des véhicules du convoi. Le représentant du secrétaire général de l'ONU au Mali a condamné fermement cette double attaque perpétrée contre la MINUSMA et l'armée malienne dans le nord du pays. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ancien parti au pouvoir, dénonce le procès du gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré qui doit s'ouvrir le 27 avril prochain. L'équipe dirigée à l'époque par Luc Adolphe Tchao est accusée de complicité d'homicide volontaire et de coups et blessures volontaires dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Au Niger, un leader de la société civile poursuivi pour concussion a été relaxé après 2 semaines de détention, la justice estimant les faits non constitués. Haiku Zodi, responsable au Niger de la coalition internationale Tournons la page, avait été arrêté le 5 avril dernier et inculpé de concussion. Les autorités l'accusaient de continuer à toucher son salaire d'enseignant sans travailler. Les djihadistes de Boko Haram ont tué 5 soldats et en ont blessé 5 autres lors d'un raid contre un poste de contrôle militaire dans le nord-est du Nigeria. Lundi soir, des dizaines de combattants soupçonnés d'appartenir à la faction dirigée par Abu Mossab al-Barnawi ont pris d'assaut un poste de contrôle militaire à environ 150 km de Maiduguri, la capitale de l'état de Borno. Toujours au Nigeria, l'aéroport d'Abuja a repris du service. Il était fermé pour réparation des pistes perturbant le trafic dans la région. Morgane Guerrier nous en dit plus.
Abuja, la capitale du Nigeria, est aussi un centre politique et d'affaires. La fermeture de son aéroport pendant 6 semaines a donc entraîné bon nombre de tracas. Les vols ont dû être détournés vers l'aéroport provincial de Kaduna, mais de nombreuses compagnies comme British Airways, Lufthansa et South African Airways avaient refusé d'utiliser cet aéroport par mesure de sécurité. Ethiopian Airlines était donc la seule compagnie étrangère à atterrir à Kaduna pendant la fermeture de l'aéroport d'Abuja. Les autres compagnies empruntaient l'aéroport de Lagos, la capitale commerciale. Il n'y a pas eu d'estimation officielle de l'impact économique de la fermeture de l'aéroport d'Abuja.
En Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, incarcéré depuis une semaine pour avoir tenté de bloquer le convoi présidentiel, a dénoncé le comportement criminel de la police au cours de son arrestation. Lors de sa première comparution au tribunal ce mardi, il a accusé la police de l'avoir attaqué avec des gaz lacrymogènes pendant 15 heures, lui et sa famille.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Actualité hors du continent, en Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May a appelé aujourd'hui à la tenue de législatives anticipées le 8 juin prochain. L'annonce surprise est un pari pour renforcer sa majorité en vue des négociations du Brexit. Les précisions de John Linden.
Les divisions du Parlement de Westminster menacent nos chances de faire du Brexit un succès. Tenir ces élections est l'unique moyen d'assurer la stabilité pour les années à venir, a-t-elle expliqué dans une déclaration. Pour valider la tenue de ce scrutin normalement prévu pour 2020, Madame May doit obtenir demain l'aval du Parlement à la majorité des 2/3. Cela ne devrait poser aucun problème puisque le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a immédiatement accueilli favorablement cette annonce. La perspective d'élections anticipées et le scénario possible d'un premier ministre conforté par un vote populaire a aussitôt fait grimper la livre sterling qui a atteint son plus haut niveau en 2 mois face au dollar. Côté Union européenne, le scrutin anticipé ne change pas les plans selon un porte-parole du président du Conseil européen. Les négociations sur le Brexit devraient commencer fin mai, début juin, pour un début de divorce effectif prévu en mars 2019.
En France, 2 hommes suspectés de préparer un attentat ont été interpellés à Marseille à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Le président François Hollande a salué une prise remarquable. Les 2 suspects, âgés de 22 et 29 ans, sont de nationalité française. Des armes ainsi que du matériel rentrant dans la composition d'explosifs ont été retrouvés lors des perquisitions. L'Union européenne appelle la Turquie à lancer une enquête transparente sur les irrégularités présumées qui ont été constatées par des observateurs dans le référendum constitutionnel de dimanche. Le oui l'a remporté avec une courte majorité permettant au président Recep Tayyip Erdogan de renforcer ses pouvoirs. L'opposition, elle, dénonce des irrégularités. Human Rights Watch accuse l'armée américaine de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour empêcher la mort de civils dans une frappe sur une mosquée syrienne qui avait tué des dizaines de personnes en mars dernier. Le Pentagone avait indiqué dans un premier temps que le raid visait une réunion de chefs d'Al-Qaïda et démenti qu'une mosquée avait été touchée. Washington a finalement annoncé avoir lancé une enquête. Le secrétaire américain à la Défense a affirmé que les États-Unis et la Chine travaillaient étroitement sur le dossier nord-coréen, alors que la tension monte dans la péninsule coréenne à cause du programme nucléaire de Pyongyang. L'essai nucléaire de dimanche montre pourquoi nous travaillons si étroitement avec les Chinois maintenant, a déclaré Jim Mattis à des journalistes dans l'avion, l'amenant pour une tournée vers le Moyen-Orient. Des frappes menées par la coalition internationale anti-djihadiste dans l'est de la Syrie ont tué 20 civils, c'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La coalition dirigée par Washington mène des raids aériens contre l'organisation État islamique en Syrie depuis 2014 et fournit un soutien aérien à une alliance arabo-kurde qui progresse vers le bastion djihadiste de Raqqa. La guerre en Syrie a fait plus de 320 000 morts et des millions de déplacés depuis son déclenchement en mars 2011. Et puis, vaste coup de filet dans les milieux pédophiles en Europe et en Amérique latine. 38 suspects ont été arrêtés dans le cadre du démantèlement d'un trafic de vidéos et d'images pornographiques impliquant des mineurs via l'application WhatsApp. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Voilà, l'actualité économique en Afrique, on en parle dans la minute éco présentée ce soir par Claire Morin-Jubourg.
Le Cameroun a besoin de 48 000 enseignants pour combler le déficit de professeurs dans les lycées et collèges, d'après des chiffres publiés aujourd'hui par le ministre des Enseignements secondaires. Pour résorber le déficit, il faudrait recruter en moyenne 5 000 enseignants chaque année sur 10 ans. Une situation aggravée par le déséquilibre entre ville et campagne. Yaoundé, la capitale, enregistre un surplus de 3 000 enseignants selon les statistiques ministérielles. Le PASI, ou projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique subsaharienne, a été lancé hier à Bamako en présence de Tiémoko Sangaré, ministre malien des Mines. Les principaux pays ciblés pour le projet sont le Burkina, Madagascar, le Mali et le Cameroun. Cette initiative régionale de 5 ans a pour but d'améliorer la gouvernance, la transparence et la reddition des comptes dans le secteur extractif afin de contribuer à une meilleure croissance économique durable. Le Fonds monétaire international a annoncé aujourd'hui une prévision de croissance de 2,6% en Afrique subsaharienne en 2017. La Côte d'Ivoire ou le Sénégal affichent des prévisions de 5 à 7% de hausse de leur PIB en 2017. Derrière l'Éthiopie qui caracole en tête avec une croissance de 7,5% prévue en 2017 et 2018 selon le FMI.
On fait maintenant place à l'actualité sportive avec Tatiana Mosso. Tatiana, bonsoir.
Bonsoir Abdou.
Alors on ouvre avec la République démocratique du Congo, Pamphile Miao, nommé entraîneur du TP Mazembe.
Effectivement, depuis 2008 et la fin de l'aventure avec Santos Muntubil, le TP Mazembe n'avait plus été dirigé par un Congolais. À 40 ans, il avait assuré l'intérim après le départ des deux Français. Depuis 2012, Moïse Katumbi, le président des Corbeaux, avait uniquement misé sur des Français. Patrice Carteron, vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, Hubert Velu, vainqueur de la Coupe de la CAF en 2016 et Thierry Froger, arrivé en février dernier et reparti à peine plus de 3 mois plus tard.
En Indonésie, Essien interdit de jouer faute de permis de travail.
Effectivement, Michael Essien, ancienne gloire de Première Ligue, a été interdit de jouer avec son nouveau club car il ne dispose pas de permis de travail dans le pays. Le joueur ghanéen qui a disputé son premier match samedi dans l'un des plus grands clubs du pays. Mais d'après l'agence des sports professionnels, il ne possède pas de documents nécessaires pour évoluer dans la Ligue. Le club a reconnu qu'il n'avait pas terminé les démarches administratives. Après avoir entendu les dirigeants, les autorités ont annoncé qu'Essien et Cole, son autre partenaire, ne pourraient pas jouer tant qu'ils n'auraient pas obtenu leur permis de travail.
Ligue des Champions, Mbappé, une précocité bluffante.
Effectivement, auteur d'un doublé à l'aller contre Dortmund, 3-2, qui a lancé Monaco sur la route d'une demi-finale de Coupe de C1 et qui sera confirmée mercredi soir. Pour son prédécesseur sur le banc de l'OM, Franck Passy, les grandes qualités du champion d'Europe, sa vitesse, ses balles de frappe et son adresse devant le but. Et en tout cas, il faudra le voir encore évoluer demain soir.
Et on termine par la NBA. Les favoris sont au rendez-vous des playoffs.
Effectivement, Cleveland comme San Antonio se sont défaits respectivement des Indiana Pacers et des Memphis Grizzlies pour mener chacun 2-0 dans leur série. Cleveland emmené par 37 points a résisté à un sursaut d'Indiana en fin de match pour s'imposer 117 à 111.
Merci Tatiana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, va-t-on vers la fin des violences dans le Kasaï? Un nouveau chef coutumier a été désigné pour succéder à Kamwina Sapu, dont l'assassinat en août dernier a déclenché les violences. Son corps a été déterré et remis à sa famille, comme l'exige la milice qui porte son nom. Pour une analyse, Eddy Issango a joint l'ancien vice-gouverneur du Kasaï, Jory Ngandou.
Gouverner, c'est prévoir. Pourquoi est-ce que le chef de l'État devrait attendre jusqu'à 7 heures pour devenir un sapeur-pompier et dire, voilà, j'ai donné un chef coutumier, voilà, je dois vous rendre compte. Le gouvernement de Kinshasa avait reconnu avoir tué le chef coutumier de Bajira Kassang. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis les corps? Ces corps, depuis longtemps, devraient être enterrés selon le rite et les coutumes des Kassaïens. Ce n'est pas aujourd'hui que cela doit se faire. Donc, ça, c'est un manque de leadership cohérent pour gérer la chose publique.
Un nouveau chef a aussi été nommé. Est-ce que vous pensez que cela va amener la paix dans le Kasaï?
Je ne pense pas que cela puisse amener la paix actuellement parce que ça devient un mouvement national. Ce mouvement a commencé à Kananga. Aujourd'hui, on me dit qu'à Luebo, ça barbe, on a tué, on est en train de piller. Et même, comme si cela ne suffisait pas, les chefs de l'État déployaient encore les militaires rwandais dans la province pour tuer le reste des Kasaïens. Ça ne peut pas amener la paix.
Et comment vous expliquez cette transformation d'un mouvement qui était purement tribal à un mouvement plutôt qui a des revendications pour politique. Il y en a qui demandent carrément l'application des accords ou la nomination de Félix Tshisekedi comme premier ministre au Congo.
Ces mouvements, c'est l'œuvre même de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'il fallait, ils ont minimisé l'affaire en disant non, ils ne vont rien faire. Parce que de par notre nature, les Kassaïens, on nous considère comme les justiciaires, les gens qui font leur trafic de diamants et ainsi de suite et qui ne peuvent pas combattre. Voilà là où ils ont amené aujourd'hui. C'est un mouvement purement tribal, mais qui a pris de l'ampleur au niveau national. On sait que le chef de l'État n'a plus de pouvoir, on lui demande d'opérer selon les accords de la CENCO, il se dit non, il va prendre l'aventurier comme Badibanga, il va mettre là-bas. Est-ce que vous pensez que ça peut ramener la paix?
Monsieur Félix Tshisekedi, qui est fils du leader de l'opposition, a annoncé que son père sera enterré ces mois-ci, mais dans les Kassai, dans cette région-là. Est-ce que vous pensez que cela ne va pas amener d'autres tumultes?
Que monsieur Félix ne puisse pas s'entêter, parce qu'il ne s'agit pas de son père, il s'agit d'un père de toute une nation, qui doit être enterré en dignité selon ce qu'il avait mené comme lutte.
Mais finalement, les gens se demandent qui était celui qu'on appelait Kamwina Nsapu pour être à l'origine d'un tel mouvement avec autant de morts.
Le Kamwina Nsapu, c'est l'enfant des grands chefs coutumiers de Bajira Kassang dans la province du Kasaï occidental. C'est un grand chef coutumier qui a été tué par Boshab et Kande pour faire plaisir à M. Joseph Kabila. Et c'est lui qui devrait remplacer, on devra respecter le testament. Mais lorsque M. Boshab va mettre quelqu'un de son obédience politique du PPRD, c'est là où tout a dégénéré.
C'était Jory Ngandou, ancien vice-gouverneur du Kasaï occidental.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Tchad, trois leaders de la société civile arrêtés par l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, sont toujours détenus dans des prisons secrètes. Les organisations pour la défense des droits de l'homme au Tchad exigent leur libération et l'ONG française Survie dénonce des arrestations arbitraires. Le point avec André Colmajingar.
Arrêtés les 6, 12 et 14 avril dernier par les agents de l'ANS, les trois leaders de la société civile, notamment Nadio Kaina, Bertrand Solongandje du mouvement citoyen Ina et Dingam Nael, Nelly Versinis du collectif tchadien contre la vie chère, ne sont pas présentés à un juge ni à leur avocat. Une situation qui préoccupe leurs parents et les défenseurs des droits de l'homme. Maître Midaï Girimba est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Pour lui, le Tchad est un pays informel.
Nous venons de découvrir qu'un décret signé de président de la République en février dernier donne les pouvoirs à l'Agence nationale de sécurité, qui est une police d'espionnage et de contre-pionnage, de procéder aux arrestations des gardes des citoyens. Et jusqu'à aujourd'hui, ni le ministère de l'administration du territoire, ni le ministère de la sécurité publique, moins encore l'Assemblée nationale, personne n'a daigné informer l'opinion sur quelle est l'infraction qui est reprochée à ces jeunes-là. Moi, je pense, en tant tant que défenseur des droits de l'homme que notre pays a abandonné la lutte pour la démocratie, pour les libertés, pour s'inscrire résolument dans la dictature. Dans les jours à venir, nous serons dans l'obligation de déposer des plaintes contre certaines personnalités pour non-assistance à personne danger, pour enlèvement et autres. Le Tchad a beaucoup souffert et il faut permettre aux Tchadiens de s'exprimer et de faire en sorte que nous vivons ensemble sans entrer continuellement dans le procès de la guerre civile.
Si l'infraction pour laquelle les trois leaders détenus ne sont pas notifiés, tout porte à croire, selon le mouvement citoyen INA, que l'arrestation de son porte-parole Nadio Kaina serait liée à son engagement dans la campagne internationale Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique, section du Tchad. Pour les observateurs avertis, l'ANS relève directement de la présidence et donc seul le président Déby est habilité à se prononcer sur le sort des détenus, car les institutions de la République ont montré leurs limites face aux agissements de ces agents qui terrorisent la population. Réaction de Gombo Ahmed Gombo, coordonnateur du collectif citoyen Tournez la page.
L'ANS, c'est une équipe de militaires sans formation. Comme disait Thomas Sankara, un militaire sans formation, c'est un criminel. Nous leur demandons la libération d'urgence de nos collègues. Sinon, dans les jours à venir, on ne va pas rester bras croisés. Et si chaque personne parle, il cherche à l'enfermer, il faut qu'il construise d'autres cellules. Il faut que le président assume sa responsabilité.
Certains responsables des organisations des droits de l'homme et les leaders de jeunes se disent très inquiets de la situation et craignent pour leur sort. André Kodumadjingar Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Niger, alors que la force régionale traque toujours les éléments djihadistes le long de la frontière entre ce pays et le Nigeria jusqu'au lac Tchad, un centre pour ex-combattants de Boko Haram a ouvert ses portes depuis décembre dernier à Diffa. C'est là que s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger. Rencontre avec les répentis de Boko Haram, un reportage de Nicolas Pino.
Un peu à l'écart de la route principale derrière la section antiterroriste de Diffa, trois bâtiments passeraient presque inaperçus, mais les fils barbelés qui les entourent et les militaires armés de Kalachnikov à l'entrée donnent le ton. Voici le centre de transition des repentis de Boko Haram. 150 personnes sont là, des ex-combattants en majorité et à l'écart leurs épouses et des enfants. Le centre a ouvert en décembre dernier et dans le bâtiment des hommes, quelques visages menaçants mais aussi des adolescents pas franchement combattants. Ibrahim Malam Toura a été enlevé lorsqu'il avait 12 ans. Il a passé 2 ans à étudier le Coran version Boko Haram avant de pouvoir s'enfuir.
Un vendredi, mon père m'a demandé d'aller au champ et a dit qu'il me rejoindrait après la prière. 2 hommes en moto sont venus et m'ont kidnappé en disant que je risquais de devenir un délinquant.
Le Niger affirme que la victoire contre le groupe djihadiste ne peut pas se résoudre que par la voie militaire. Un centre permanent de déradicalisation doit ouvrir dans quelques semaines à Goudoumaria. Dandano Mahamoudou Lawali est le gouverneur de la région de Diffa.
C'est les efforts de l'État, c'est vraiment un financement étatique. C'est l'État qui prend tout en charge. Nous sommes en train de construire un complexe qui va comprendre une administration, des dortoirs. Vraiment, c'est un complexe dans lequel on va procéder d'abord à une déradicalisation. Il faut les déradicaliser. Mais également, on va procéder à une formation professionnelle à l'intérieur des camps parce que c'est généralement des jeunes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'emploi. Mais après, il faut procéder à une réinsertion sociale.
Les 150 personnes qui s'entassent dans le centre de transition déménageront bientôt vers Goudoumaria, mais certaines ne demandent qu'à retrouver la liberté. Parmi elles, Fatima Ibrahim, 20 ans. Elle a été kidnappée il y a 4 ans dans la région de Maïdougouri, au Nigeria.
Moi, j'espère vite rentrer au Nigeria. J'ai été mariée de force à des combattants de Boko Haram et mes parents ne savent même pas que je suis là.
Beaucoup d'ex-combattants de Boko Haram nient leurs atrocités ou minimisent leur implication. Impossible de savoir qui dit la vérité. Malam Boukar Adam est un ancien enseignant ayant rallié Boko Haram. Il dit avoir été médecin pour le groupe djihadiste.
J'ai quitté Boko Haram parce qu'il y avait des dissensions. Le groupe de Shekau et celui de Mamanou se sont battus 6 fois. C'est une question d'idéologie. L'islam est une religion de paix. Un bon musulman n'a pas à tuer les gens.
Beaucoup de repentis de Boko Haram décrivent un mouvement sur le déclin, mais il faudra encore de longues années pour défaire l'idéologie que les djihadistes ont semée dans la région. Et Nicolas Pino depuis Diffa pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Mauritanie, le torchon brûle entre les poètes et le président Mohamed Abdelaziz. Celui-ci estime qu'il est plus avantageux pour le pays que les jeunes des universités se tournent vers les filières scientifiques pour contribuer au développement du pays. Solange Nyamulisa a joint Kissima Diagana, il est le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Tribune.
On peut parler de conflit d'une heure entre le président et les poètes. On reprocherait notamment au président de ne pas porter beaucoup d'attention et d'importance à ces gens qui s'occupent un peu de la poésie en Mauritanie, compte tenu du fait qu'on le présente comme étant celui qui donne beaucoup plus de priorité à la science, aux matières techniques. Parler de grève des poètes, grève par rapport à quoi? Grève pour dire que nous n'allons plus produire de poésie ou pour dire que nous allons, si vous voulez, exprimer quelque chose à travers cela. En tout cas, je ne vois pas du point de vue des faits, ou bien du point de vue surtout des conséquences sur le développement immédiat, ce que ça peut représenter.
Quelle est l'importance de la poésie en Mauritanie?
Il faut dire qu'en Mauritanie, on est une société où l'expression, c'est-à-dire la force de la parole, est très marquée. Nous avons plusieurs communautés en Mauritanie, la communauté arabe, la communauté négro-africaine qui est composée de communautés Peul, Soninké et Wolof. Donc, chacune de ces communautés-là a ce côté littéraire où on donne beaucoup plus de valeur à l'oralité. Notamment dans le milieu mot, par exemple, qu'on appelle l'urne, c'est-à-dire la poésie, la parole chantée, elle permet d'exprimer toutes les situations, que ce soit les situations lyriques, que ce soit les situations purement sociologiques ou les situations guerrières et tout ce que cela peut comporter. Ce n'est même pas par hasard qu'on a appelé la Mauritanie le pays au milieu de poètes. La poésie est très importante pour les populations de toute génération en Mauritanie, mais cela n'exclut pas le fait que la demande aujourd'hui sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, est telle que certaines autorités considèrent en tout cas qu'il faut donner dans l'éducation plus de priorité aux matières scientifiques et faire comprendre aux populations qu'on ne peut pas développer le pays par la poésie. Mais c'est une question culturelle. Vous savez, les questions culturelles sont très sensibles et y toucher risque aussi de porter atteinte, si vous voulez, à tous les gens ont comme valeur, à tous les gens ont comme patrimoine à conserver.
C'était le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Tribune, Kissima Diagana, joint à Nouakchott.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your f***ing ride it, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, Julio served that scampi. You got it if you want it, got it if you want it. Said you got it if you want it, take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne.
Voilà, c'est sur ce titre de Bruno Mars, What I Like, qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi donc cette édition. La mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagnon. À la console, Wagner Roberts. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look and
in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.